Le monde est mobilisé, les associations féminines sont très,
merci
très
beaucoup.
Mobilisées.
Restez là, restez là, ne quittez pas. Restez là, ne quittez pas. On va juste changer d'avion et nous revenons dans un instant.
Les passagers à destination du Mali sont priés de rester à bord. Le commandant de bord et son copilote vous souhaite un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité.
Salut les amis de Bamako, d'Abidjan, de Conakry, de N'Djamena. En ce moment, vous êtes toujours scotché en train de suivre RM Show, une émission très, 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 très importante aujourd'hui. Antenne libre, nous parlons d'un grand sujet, la grande question de cette semaine : comment protéger la femme contre les violences en Afrique ? Et bien sûr, nous avons coupé brusquement Madame Dédé, Marthe Dédé, qui est à Beauvais en France. Et je m'excuse pour cela, Marthe, parce que le temps, on devait vraiment vite switcher, changer. Et en ce moment, nous avons encore Marthe qui est là. Marthe, je m'excuse, et là, vous pouvez continuer.
Il n'y a pas de souci. Oui, je disais là, le cri est unanime dans le monde entier par rapport à l'enlèvement de ces femmes. Et surtout, j'aimerais dire au monsieur de tout à l'heure, non, le viol, les viols là qui se passent au Congo, voilà, nous lançons également, nous n'arrêtons pas de lancer un cri d'alarme par rapport à cela. Et d'ailleurs, ça va être le sujet du prochain colloque de l'Oméga. Ça fait un an que nous travaillons là-dessus. Et je vais personnellement, moi, traiter ce sujet qui aura pour thème le viol arme de guerre. Et un mot-clé qu'un des messieurs a prononcé tout à l'heure, pour moi, c'est l'impunité. C'est l'impunité. Vous savez qu'en temps de guerre ou pas de guerre, la banalisation du viol en général, en Afrique ou ailleurs, même ici en Occident, est très très grave. Et je pense que c'est à nous, société civile, de mettre l'accent là-dessus. C'est pourquoi que l'Oméga, donc l'Organisation des Mères et Enfants de Guinée d'Afrique, ça fait un an que nous sommes en train de travailler là-dessus, en collaboration avec d'autres grandes associations dont je ne citerai pas le nom, vous le saurez en temps venu, que à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, c'est le 25 novembre 2014, nous allons organiser un colloque et le thème précis que moi personnellement je traiterai, c'est le viol arme de guerre. Et là, j'interpellerai via l'Oméga l'opinion. Il faut aussi sans cesse lancer des cris plus forts, à un autre degré, sur ces viols-là, sur ces types de viols.
Merci beaucoup. Voilà. Et Georges, je ne sais pas si nous avons encore Jean-Claude. Jean-Claude est encore là. Allô, Jean-Claude. Jean-Claude est encore là. Merci, Jean-Claude. Alors, Jean-Claude, il y a Marthe Dédé qui parle de viol comme arme de guerre. Est-ce que c'est exactement, d'après vous, ce qui se passe en ce moment avec les jeunes filles enlevées et ce qui s'est passé au Congo, en fait?
En tout cas, pour ce que les jeunes filles qui sont enlevées au Nigeria, je ne sais pas s'ils utilisent ça vraiment comme arme de guerre, mais ce que je sais pour sûr, c'est que ce qui se passe au Congo, en tout cas, ils utilisent le viol comme arme de guerre. Parce que la politique des multinationales, comme vous le savez, c'est de pouvoir exploiter, piller les ressources du Congo. Les terres sur lesquelles sont situées, en dessous desquelles sont situées ces ressources, étaient tout auparavant occupées par des populations. C'était des villages. Alors, qu'est-ce que ces gens font, ceux qui travaillent avec les multinationales? Ils envoient les groupes armés vont dedans, il terrorise les villageois. Et comment il les terrorise? C'est-à-dire, on entre dans votre maison, de jour ou de nuit, pendant peut-être que vous êtes en train de dormir, on prend votre femme, on la viole devant vous. Dès que le mari veut parler, on lui tire dessus. On prend vos enfants. Et des fois, on prend même les bébés. Les filles bébés sont violées au Congo. Hmm. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La famille est disloquée. Souvent, le père, s'il a essayé de se lever pour intervenir, pour protéger sa famille, il est abattu. S'il n'est pas abattu directement, il va répudier cette femme-là. Et toute la famille va fuir. Et ils vont faire ça dans plusieurs maisons du village. Qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, tous les villageois s'enfuient et eux ont la terre et ils vont maintenant commencer à exploiter. Donc les bulldozers vont venir, ils vont commencer à creuser pour prendre les minerais. Donc, et puis, on a au Congo actuellement un pouvoir, comme vous le savez, qui n'est pas vraiment un pouvoir élu et qui joue avec ce système-là. Malheureusement pour nous, aujourd'hui, c'est que la population n'est pas protégée par ces gouvernants, par ceux qui sont censés assurer sa sécurité. Donc, que ce soit les M23, que ce soit tous ces groupes armés qui sont autour du Congo, ils viennent, en fait, c'est pour piller le Congo, pour exploiter, c'est vraiment ça l'objectif, mais ils prétendent qu'ils sont des rébellions, qu'ils veulent renverser le gouvernement de Kinshasa, alors que nous savons très bien que c'est pas pour ça.
Et Jean-Claude, comment, la grande question ici maintenant, c'est comment alors protéger cette femme africaine contre ces violences?
Eh bien, il faudrait d'abord, comme on l'a dit tantôt, et j'étais très content d'entendre la dame qui a parlé avant moi.
Oui, c'est Marthe Dédé.
Il faut que les bourreaux, ceux qui violent ces femmes-là, d'abord les militaires, bien qu'ils ne sont pas les commanditaires, eux ne sont que les petites mains qui agissent au bas de l'échelle, que ces personnes-là soient arrêtées et traduites vraiment en justice et qu'on voit qu'ils sont vraiment effectivement sanctionnés. Mais ce qui se passe au Congo, c'est que ces gens-là ne sont jamais sanctionnés. On les laisse, ils sont en liberté, ils continuent à circuler. Et pendant ce temps-là, les victimes doivent se cacher. Parce qu'elles sont répudiées, ainsi de suite. Donc, il faudrait qu'il y ait des sanctions. Il faut vraiment... Mais pour ça, il faudrait qu'au Congo, on ait un gouvernement responsable, des personnes responsables qui tiennent vraiment à la sécurité de leur population. Ce qui, pour le moment, n'a pas l'air d'être le cas, malheureusement.
Merci beaucoup, Jean-Claude Ilunga. Restez là, on va prendre un petit break avec la belle voix de Céline Dion.
Some climbing faith, oh yeah. No rim is too wide
Voilà, c'était Angels. On va écouter aussi cette chanson avant qu'elle parte plus tard. Mais c'était I'm Your Angel des Arkeli et la belle Céline Dion. Les amis, nous parlons cette semaine de comment, la grande question, c'est comment protéger la femme contre les violences en Afrique. Les violences faites aux femmes désignent l'ensemble des comportements individuels ou collectifs violents reposant exclusivement sur une question de genre. Et là, les amis, vous savez que les recherches visent à mettre en évidence que ces types de comportements reposent sur une représentation sociale. Il y a Kerwin qui nous disait, Roger, c'est aussi comment vous parlez aux femmes, comment on parle aux femmes, on les insulte, c'est pas seulement la violence physique. Et c'est vrai que ces comportements reposent aussi sur une représentation sociale du genre qui tolérerait, voire encouragerait les agressions de ces types. Elles sont associées au mariage forcé, grossesse forcée ou avortement forcé, mutilation génitale, lapidation, défiguration à l'acide et autres crimes d'horreur, esclavage et violence domestique sans recours, viol, d'épuration ethnique, esclavage sexuel, privation traditionnelle ou politiquement tolérée, n'est-ce pas? Et ça, c'est interdit, c'est pas bien, c'est pas du tout gay, parce que comme le disait notre ami Kerwin encore une fois, les femmes, sans les femmes là, on n'existerait même pas, ce sont nos mamans, nos sœurs, nos femmes. Qu'en sais-je aujourd'hui? C'est la grande question de la semaine ici dans RM Show. Donc vous appelez au 001-202-619-3140. Georges, je ne sais pas si j'ai encore Bruna Massolo qui est encore là. Allô Bruna?
Oui, allô, je suis là.
Ah ben aujourd'hui tu ne vas pas dormir avant là. On doit vraiment. Bruna, dis-moi un peu, est-ce que une question un peu hors sujet aujourd'hui, est-ce que t'as déjà, t'es maintenant amie à Kerwin Maïso sur Facebook?
Oui, je suis amie à Kerwin Maïso.
Ah ben d'accord, donc je vais vous dire bonjour. Ben, on peut avoir Kerwin aussi en même temps, Georges. Kerwin, tu peux quand même dire bonsoir à Bruna, elle est là maintenant.
Oui, mais je suis sur son profil, justement. Je suis sur son profil.
Ah voilà, une surprise pour Bruna.
Merci. Salut Kerwin.
Salut Bruna, comment ça va en Angola, à part les soleils excessifs ces derniers temps?
Vraiment, non, à part le soleil comme d'hab, mais en tout cas, tout va bien, tout ça marche. Tout ça marche, ça va très bien.
Heureusement, tout marche. Ça, c'est vrai. Mais alors, Bruna, on va maintenant parler exactement en Angola. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes là-bas? La violence contre les femmes, est-ce qu'elle est punie? Sévèrement punie?
Oui, je peux dire, elle est punie. Elle est punie par rapport aux femmes qui ont le courage, la force de comment je peux dire, qui ont le courage, la force de rendre les hommes à la justice, je pourrais dire. Parce que ici, nous avons l'organisation de Mulher Angolane qui est OMA. Alors, OMA, c'est pour les femmes. Alors, ça traite tout ce qui est violence faite à la femme. En tout cas, de ses côtés, je peux dire que les hommes vraiment sont punis. Les violences faites à la femme ici en Angola sont punies par rapport à l'organisation de Mulher Angolane. Si la femme, parce que tu vois, quand on viole quelqu'un, et quand la violence est faite à la femme est traumatisée, il y a d'autres femmes qui ont peur de rendre ce qu'elle vit dans sa vie conjugale à la vie de genre. Mmh. Reste là à la maison, elle continue toujours à subir la violence. Mmh. Mais il y a d'autres femmes qui ont moins cette force qui en font. Et alors, par rapport aux guerres qui est passée à Dapola, par rapport à tous ces temps que les femmes angolaises ont passé, vous savez, on a beaucoup de des alphabètes qui ne savent même pas ce qui est le droit de la femme, qui ne savent même pas comment aller en justice pour rendre son mari qui la viole à la maison. Donc, c'est ça le problème. Bon, par rapport à ça, il y a le maman des Oma qui font le fort d'aller en province pour essayer un peu de mobiliser les femmes. Comment réagir face à la violence faite à la femme, premièrement, à la maison avant de le rendre en justice.
Exactement. Merci beaucoup, Bruna Massoa. Restez là, en direct aussi, ici à la Voix de l'Amérique, service francophone. Mon ami Jacques Aristide, notre collègue ici à la Voix de l'Amérique, est ici avec moi. Jacques, quel plaisir de t'avoir dans RM Show. T'es perdu ou quoi? T'es perdu? C'est pas Washington Farm ici.
Effectivement, je suis perdu. Hein, je cherchais mon chemin.
Mais ton chemin,
dans les couloirs.
Mais exactement.
Et voilà.
Mais voilà, tu nous as surpris.
Finalement, j'ai atterri ici.
Mais c'est un grand plaisir de t'avoir, Jacques, parce que on a effectivement une question pour Jacques Aristide. Jacques Aristide, d'abord, parlons un peu de Washington Forum ce jeudi.
Oui.
Évidemment, vous allez parler aussi de Boko Haram, de ces jeunes filles qui ont été enlevées, n'est-ce pas? C'est exactement le sujet de la semaine, vous parlez?
Oui, effectivement. Ouais. Et donc, justement, là, je viens d'arriver et tu me dis, Roger, que tu parles de Boko Haram.
Oui, c'est notre sujet de la semaine.
Et là, je me dis, ben voilà, je vais faire une petite pub pour
bien sûr, pourquoi
Washington
pas.
Forum ouais, ce jeudi. On va parler de Boko Haram. Mm. On va essayer de faire l'historique, l'origine, pourquoi ce groupe a été créé, quelles sont ses revendications. Et puis évidemment parler de toute la campagne planétaire qu'il y a en ce moment. Évidemment, nous, vous savez, au service francophone de la Voix de l'Amérique, on parle de Boko Haram depuis pas mal de temps. Hein. Mm. On parle toujours de Boko Haram, mais il y a les médias occidentaux qui maintenant comme si découvrent que Boko Haram sévit depuis 2002 dans le nord-est du Nigeria. Et donc, ce qui fait qu'on aura deux invités, on va parler de ça et puis essayer de comprendre pourquoi le gouvernement, pourquoi l'armée nigériane ne sont pas parvenus à annihiler le groupe Boko Haram depuis qui a été créé en 2002, je dois le dire. Et puis il y avait cette campagne militaire contre Boko Haram quand le groupe a commencé à devenir ce groupe radical. Alors, qualifié tantôt de secte, tantôt de mouvement religieux, et puis le groupe a été finalement qualifié par les États-Unis d'organisation terroriste. Mmh. Et voilà, ça a pris pas mal de temps.
Et Jacques, ici, comme vous venez juste de le dire là, il y a une grande campagne alors mondiale. Ouais. Et vous savez très bien que votre émission est beaucoup suivie aussi en RDC, au Congo, Kinshasa. Et beaucoup de Congolais de là-bas se plaignent que les viols qui ont eu lieu au Congo n'a pas été aussi diffusé de sorte exactement. Et il y a un peu une différence. Il y a Jean-Claude qui est avec nous au téléphone en ce moment. Oui. Jean-Claude Ilunga qui nous a même écrit. Il est aussi au téléphone. Il nous écoute en ce moment. Il a dit Roger, nous avons vu votre First Lady s'émouvoir pour les filles, n'est-ce pas, kidnappées au Nigeria. Et nous alors, tout ce qui s'est passé au Congo, on n'a pas vraiment nos mères, nos sœurs et nos filles subissent mille fois pire que ça. Et ces filles au Nigeria, mais Madame Obama n'y dit absolument rien. Et moi, je venais juste dire à Jean-Claude que je crois que le gouvernement américain s'y est quand même impliqué. Mais il croit, beaucoup de Congolais croient quand même que c'était pas assez.
Oui, pas assez. Et quand même, là, il faut dire, parfois, on est là à faire un procès. Des fois, parce qu'évidemment, on est impliqué.
Ouais.
Ça peut être subjectif.
Ouais.
Donc, on fait un procès aux autres. Nous-mêmes, ici à La Voix de l'Amérique, on parle de la RDC tout le temps. Washington Forum, on a consacré cette émission semaine après semaine et au problème, à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et vous vous souvenez, récemment, on a eu cet entretien exclusif avec le secrétaire d'État américain, John Kerry, qui a parlé de la RDC. Il s'est rendu là-bas et nous, nous l'avons interrogé avant son départ. Il a parlé, il a dit qu'il nous faut que la paix revienne de manière permanente dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'à ce moment, l'armée, avec l'aide des forces onusiennes et l'armée congolaise, je vais dire les FRDC qui ont pu repousser ces rebelles. Mais il y a toujours d'autres groupes qui sont présents. Donc,
cette campagne est quand même différente de tout ce qui s'est passé au Congo?
Vous savez, il y a des choses parfois qui dépassent l'entendement, Roger. On peut trouver des explications tout le temps, mais bon, là c'est un peu difficile. Mais il faut le dire quand même, c'est après pratiquement un mois qu'il y a eu toute cette campagne. Donc évidemment, il y a eu une célébrité qui a affiché quelque chose, une photo sur Twitter. Et donc là, finalement, après, vous avez eu la First Lady avec cette photo sur son Twitter. « Bring back our girls, littéralement, « Rendez-nous nos filles ». Ça avait commencé au Nigeria, évidemment. Et puis voilà, ça a gagné le monde. Donc ça a pris quelques temps. Il ne faut pas dire que ça a été très rapide comme ça. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer.
Et voilà. Et Jacques, est-ce qu'on peut comparer cet enlèvement de ces filles au viol, par exemple, de femmes au nord du Mali, par exemple? Parce que notre sujet de la semaine, pour direct, c'est comment protéger la femme contre les violences en Afrique. Et on sait très bien que les femmes ont été violées, tuées au nord du Mali, n'est-ce pas, lors de
quand les groupes terroristes étaient présents.
Voilà.
Ça également, on en a beaucoup parlé. Et continue d'ailleurs, on continue à parler. On a pas mal d'émissions chaque jour sur La Voix de l'Amérique. Oui. Évidemment, c'est un gros problème. Mais quand vous avez un groupe comme Boko Haram qui prend pour cible l'éducation, parce que Boko Haram, ça signifie et l'éducation occidentale. Voilà, l'éducation. Il prend pour cible l'éducation, évidemment, l'éducation des filles. Et quand vous avez des groupes comme ça qui ciblent quelque chose comme l'éducation. Qui cible les femmes, là. Effectivement, il faut faire quelque chose. Et en passant, il faut dire, Roger, depuis le début de l'année, rien que depuis le début de l'année, il y a eu plus de 2000 morts dans le nord-est du Nigeria. Et ça, quand même, c'est depuis 2002, mais là, on parle que depuis le début de l'année. Donc, quelque part, il y avait également, il faut dire, ça a pris beaucoup de temps. Voilà, il fallait cet événement, c'est-à-dire cet enlèvement, ce rapt massif de ces jeunes lycéennes, pour que finalement la communauté internationale se mobilise pour dire qu'il y a un problème en Afrique, au Nigeria, dans le nord-est du Nigeria. Il y a ce groupe qui se répand. Et même, il y a des pays...
Est-ce qu'on peut maintenant espérer que cela va aller de même pour toutes les filles qui sont... n'est-ce pas, sujet de cette violence en Afrique. Est-ce que le monde pourra encore regarder tout ce qui se passe dans d'autres pays aussi?
Je crois que...
C'est un wake-up call, comme
on dit. Wake-up call, et je pense que c'est le devoir de tout un chacun, Roger. Hein? Il n'y a pas... Il ne faut pas dire tout le temps, oui, il faut attendre la communauté internationale, oui, dominée par, évidemment, les puissances
L'Union africaine,
mondiales.
Par exemple.
Voilà. Mm. Il y a des gens qui se demandent. En fait, déjà, j'ai vu des commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Mm. Et, nos téléspectateurs, nos auditeurs qui se demandent où est l'Union africaine dans tout ça. Pourquoi on ne fait rien nous-mêmes en Afrique? Donc il y a des questions qui se posent. Donc on ne peut pas attendre tout le temps que les autres se mobilisent et viennent résoudre les problèmes africains.
Jacques, tu me donnes envie de participer à ton émission, c'est jeudi. Hein,
oui, c'est jeudi.
la façon dont tu parles, tu me donnes vraiment envie d'être là à Washington Forum pour bien suivre cette émission, parce que c'est évidemment notre sujet de la semaine aussi. Et je crois que les amis, vous serez connectés, scotchés à suivre Washington Forum avec Jacques Aristide. C'est jeudi, un sujet qui concerne tout le monde. Et les Congolais, les Maliens, les Brazzavilloises et Brazzavilloises, appelez tous ou écrivez sur le site, n'est-ce pas
de, ah oui, la page Facebook de Washington Forum.
Qui est Washington Forum.
Washington Forum. Donc ouais. Facebook / Washington Forum. Et c'est là, évidemment, le plus de commentaires, c'est le mieux. Hein,
ben, c'est le mieux, exactement. Dit, je ne sais pas si Jean-Claude Ilunga est là. Jean-Claude, je ne sais pas si il pourra poser, il a une question pour Jacques Aristide. Allô Jean-Claude?
Oui. En fait, ce que je voulais juste dire à monsieur Aristide, c'est juste une réflexion comme ça, en disant que oui, peut-être que sans vouloir faire de comparaison, je veux juste dire que ce qui se passe au Congo se passe depuis 96, donc 96 comme on dit ici en Belgique. Donc, et jusqu'à présent, on n'a pas encore vu une médiatisation autant que ce qui se passe au Nigeria. Et alors, ce qui nous surprend, nous, bon, qui nous choque, c'est que ici, en tout cas, en Europe, où on est, en Belgique, où je vis personnellement, c'est que les médias n'en parlent quasiment pas. Sur la télévision nationale ici, la RTBF, et même la télévision flamande, la VRT, on n'en parle quasiment pas. Donc on ne parle pas du tout de ce qui se passe au Congo. Alors que nous qui avons de la famille là-bas, on est régulièrement informés de situations macabres qui se passent de vie. Et ici, quand on parle, pour vous donner en termes de chiffres, c'est qu'il y a eu quelque chose comme... plusieurs milliers, je dirais, quelque chose comme quoi, 2 millions de viols ou quoi qu'on avait répertorié à un moment donné. Et alors, on disait que c'était quelque chose comme, par heure, il y avait 30 ou 40, je ne me souviens plus du chiffre exact, 30 ou 40 viols par heure qui se passaient là au Congo. Donc,
merci beaucoup donc, Jean-Claude, merci beaucoup Jean-Claude, parce que là, je crois que...
Et alors,
Je crois que Jacques, il a quand même un point là. Si c'est pas aussi médiatisé ailleurs, je crois que ça peut aussi causer un problème pour que ça crée cette campagne. Les médias, Washington Forum en parle, ici à la Voix d'Amérique, on en parle chaque fois.
Mais vous savez, Roger, les médias occidentaux, même dans le cas Nigeria, dans le cas de Boko Haram, il y a beaucoup de médias occidentaux qui sont venus de l'avant pour faire leur mea culpa, parce qu'ils n'ont pas beaucoup parlé de Boko Haram depuis des années. Je l'ai dit, ce groupe existe depuis 2002 et fait des ravages, beaucoup de violence. Mais évidemment, il y a ce sentiment selon lequel, voilà, il y a cette situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous, ici, à la Voix de l'Amérique, on en parle tout le temps. Et nous-mêmes, en fait, c'est vrai, on est objectif, on ne veut pas impliquer nos sentiments, mais c'est vrai que des fois, on se demande pourquoi les médias occidentaux ne parlent pas de cette situation d'insécurité permanente dans l'Est de la République du Congo. Et on veut qu'on en parle absolument.
Exactement. Merci beaucoup, Jacques Aristide. Restez scotché ici, jeudi, pour suivre son émission. Please don't go, I gotta go, les amis, notre sujet.